Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
Bienvenue dans la bulle immobilière.
Jusqu'à 16h.
La bulle, ça se perce pas facilement.
Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9.
La bulle, c'est fragile, la bulle.
C'est la bulle immobilière.
Jean-François Morin
et ses invités.
Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier.
Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
Ladies and gentlemen, let's go.
Bienvenue à notre 12e saison de la bulle immobilière à CJMD. Vous écoutiez le jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier avec la bulle immobilière. Laissez-moi vous présenter notre nouvel outil pour la saison numéro 12, notre nouvel animateur, Michael Faleschini, investisseur, gestionnaire immobilier de gestion Faleschini-Mercier. Salut Mike. Je suis content que tu sois là.
Yes, salut Jeff. Ça fait un grand plaisir de commencer cette saison-là avec toi. Encore une fois, merci là, pour l'opportunité de me donner ce poste de co-animateur-là. C'est tout un honneur. Puis je sais qu'il y a des grosses chaussures à remplir avec remplacer Sylvie Bougie, mais bon, je vais essayer de faire ça avec ma façon, avec ma saveur.
Mais c'est-tu quoi? Tu sais, t'es un investisseur, t'es un gars qui est ultra impliqué. J'ai eu l'occasion de te côtoyer beaucoup plus avec le réseau immobilier. On fait partie de les deux, là, d'administrateurs au niveau du réseau. On a eu le temps d'échanger, jaser. T'es un gars d'action, t'es un gars qui est là pour que ça marche. J'ai appris à te connaître, j'ai appris à travailler avec toi. T'es un gars qui opère au maximum. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Je suis sûr que la saison numéro 12, on a près de 20 invités qui s'en viennent aussi. Fait que ça va être quand même complètement fou pour cette saison-ci. Puis, qui dit investissement, dit complexité d'un projet. Il n'y a pas rien qui est simple actuellement. Là. Est-ce que tu me confirmes?
Absolument. Puis, tu sais, en ce moment, là, un des gros enjeux qu'on voit, qu'on entend parler dans l'immobilier, c'est la pénurie de logements. Puis, tu sais, avec les différents intervenants en immobilier, on regarde comment qu'on peut régler un peu cette pénurie-là. Puis, une des solutions qui est un petit peu inévitable, c'est la construction de nouveaux logements. Donc, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un vraiment qui a les deux pieds dedans. Donc, ce qui va nous parler du domaine de la construction, mais plus particulièrement de la consultation en coût. Donc, on reçoit aujourd'hui Louis-Philippe Villeneuve, qui est consultant en coût et économiste en coût de la construction. C'est Patona, donc sa propre entreprise. Louis-Philippe, comment ça va?
Ça va super bien. Merci les gars de me recevoir aujourd'hui. Très apprécié.
Yes, sir. Écoute, est-ce que tu peux prendre... Nous, on s'est rencontrés à peu près 8-9 ans chez une compagnie d'évaluation immobilière. On était collègues brièvement là, chez GDA. Fait que ça fait quand même un bon petit bout qu'on s'est connus, mais on a un peu perdu. Là, c'est perdu de vue, on s'est retrouvés récemment, tout ça. Tu peux-tu nous parler un petit peu de ton background, puis qu'est-ce qui t'a amené premièrement là, en immobilier en général, puis un petit peu plus précisément après ça, là, vers ta profession qui est le contrôle de coûts?
Absolument. Écoute, moi, j'ai fait mon DEP en dessin de bâtiment. Dans mon parcours de dessin, il y avait un module d'évaluation que j'ai adoré. Donc, je devais faire la passerelle pour être technicien en évaluation. J'ai commencé en mars 2015 chez GDA comme technicien en évaluation. Rapidement, je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus axé là, sur des chiffres concrets et un petit peu plus là, l'estimation, si on veut. Et qu'avec mon ancien employeur, là, Steve Gilbert, on a décidé de partir en département de contrôle de coûts pur et dur chez GDA. Puis de là, Steve m'a encouragé fortement à aller faire mon cours à l'ETS, mon certificat d'économiste. Ça m'a pris 5 ans à le faire. Là. En décembre 2019, j'ai fini. J'ai eu ma certification d'économiste en coût. Là, je suis membre dans l'AEECQ, donc je suis économiste agréé. Là, puis c'est vraiment depuis 2015, là, depuis fin 2015 que je fais du contrôle de coût. Depuis août cette année, août 2023, j'ai fondé Patona, là, Patona Consultant Immobilier, pour accompagner mes clients là, exclusivement là, dans le contrôle de coût.
Puis tu sais, qui dit Patona veut savoir c'est quoi ça?
Oui, Patona est un peu quétaine, mais c'est partenaire en japonais. C'est vraiment comme ça que je veux me positionner dans le marché comme un partenaire pour mes promoteurs, pour un partenaire pour les entrepreneurs, vraiment pour tout le monde. Les accompagner de A à Z dans la démarche de contrôle de coût de leur projet. Là, vraiment, là, on est souvent mal accueillis au début, si on veut. On est comme une surcharge de travail, mais rapidement, le promoteur se rend compte qu'on a une plus-value et qu'on peut faire de quoi avec eux. Là, vraiment cool. Là.
Puis toi, Mike, tu connais quand même super bien Louis-Philippe. T'es un gars qui est super actif. T'as la gestion immobilière, t'es investisseur aussi. T'es pas un premier projet neuf. Vous allez l'entendre parler pendant toute la 20e, la 12e saison parce que moi, je suis en train d'embarquer dans ce processus-là. Puis, tu sais, j'ai pas les mêmes chaussures que toi, Mike. C'est quand même des gros projets. C'est de la grosse argent. T'sais, on avait notre pré-entrevue tantôt, puis j'étais super excité. Là. J'étais comme, waouh, c'est vraiment cool. Waouh, c'est vraiment malade. Hey, crime, ça, c'est des choses que j'avais pas pensé. Puis d'avoir des consultants, puis la bulle immobilière, on se veut souvent cette émission-là qui dit, prenez donc des professionnels qui sont là pour vous aider, puis vous accompagner. Puis oui, ça coûte de l'argent, mais investissez-le. Combien d'argent que vous allez sauver au bout du compte? Là? T'sais, c'est pareil pour un fiscaliste, que les gens vont dire, oh non, j'ai pas besoin, j'ai mon comptable. Crime, prenons deux minutes pour parler à un fiscaliste puis amener tout ça. Là. Fait que, tu sais, toi, tu le vis, là. T'es deux pieds là-dedans, là.
Ben exactement. Là, nous, on a les deux pieds là-dedans. Nous, on a un projet actuellement, là. On est dans la demande de permis actuellement. Donc, on va être bientôt à l'étape de justement rentrer ce genre de professionnel-là dans le dossier. Puis, Louis-Philippe, moi, je me disais, tu sais, toi, c'est un service qui est de prime abord, que c'est les institutions financières qui oblige, entre guillemets, là, le client à faire affaire avec toi. Mais en même temps, toi, ce que tu viens de dire, c'est « Hey, moi, je peux accompagner le client dès le début de son projet pour bien aligner les budgets, bien aligner les coûts, etc. Savoir qu'on s'en va dans la bonne track avec le projet et non juste arriver à cause que l'institution financière a besoin de faire des déboursés, etc. Les coûts. Là.
Effectivement, on est souvent considéré comme être entre l'arbre et l'écorce, si on veut. Là. Le promoteur nous paye, mais c'est la banque qui nous exige. C'est lui, mon mandat est avec la banque, je fais respecter les conditions de la banque. Fait que je suis tout le temps un petit peu entre l'arbre et l'écorce, mais j'accompagne toujours comment je vois ma job, c'est que mon client, finalement, c'est le promoteur, carrément. Puis je m'assure avec lui qu'on respecte ce que la banque veut. Fait qu'au lieu d'être... En tout cas, je suis quand même considéré comme le chien de garde de la banque, si on veut. Là, désolé l'expression, là, mais vraiment du côté promoteur plus. Fait que comme tu disais tantôt, même si j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas encore leur prêteur puis qui viennent me chercher en amont de leur projet, puis je les aide à monter leur budget, je les aide à vérifier qu'ils ont toutes leurs conditions préalables, c'est vraiment avancer tout dans le processus pour que quand ils arrivent au premier déboursé, au premier vrai dollar que la banque fournit, ils soient prêts, qu'il n'y ait pas de nouveaux délais, de nouveaux retards. Fait que c'est vraiment là, les accompagner pour que ça aille super bien dès le jour 1. Puis éviter l'histoire d'horreur, dans le fond.
Puis tu sais, une des choses que tu disais, c'est que toi, tu as des réflexes aussi pour venir amener, tu sais, d'éviter les erreurs, les histoires d'horreur. Là. Il y en a eu une puis un autre, mais il y a des fois, quand on embarque dans des projets, il y a des choses que nous, on n'aura pas comme réflexe. Puis tu sais, qui va arriver après le deuxième, après le troisième, après le quatrième projet, mais tu sais, combien d'argent qu'elle a été laissée sur la table pour des erreurs que si on avait eu un consultant, ça nous aurait sauvé. Tu sais, pour vrai, ça doit arriver régulièrement. Pareil pour la prime de la SCHL, tu sais, tu dis c'était souvent des oublis dans différents projets de budgéter la prime, de budgéter aussi la taxe parce que c'est taxable au niveau de la prime aussi. Fait que ça fait en sorte que toi tu disais que c'est de la consultation peu réduite. Fait que tu sais toi tu viens t'asseoir avec les entrepreneurs, tu viens comprendre le projet, tu viens puis tu sais t'es un intervenant autant pour orienter sur la construction que pour s'assurer que le financement soit bien ficelé aussi. Là. C'est un peu dans ce concept-là que ton offre de service est ouverte.
Exactement. Puis souvent, même j'aide avec le courtier à essayer d'optimiser leurs prêts. Carrément, là. Fait que vraiment d'aller chercher le plus de dollars possible, d'en laisser le moins, comme tu disais, sur la table. J'ai beaucoup de promoteurs qui ont plusieurs projets en même temps, qui aiment ça, mettre le moins de mise de fonds possible. Fait que d'être capable d'optimiser tout ça, là, c'est important pour eux. Puis, tu sais, ma façon de faire, c'est vraiment, là, j'ai une bonne rencontre de 45 minutes, une heure avec mes clients au début. Même des fois, avant mon mandat, je leur fournis toute ma paperasse. Fait qu'ils n'ont pas besoin de s'inventer de budget. Ils n'ont pas besoin de s'inventer de rien. Moi, je leur donne tout. Mes suivis de facturation, mes suivis de paiement, mes suivis de budget, je leur donne tous mes documents à moi. Je leur explique comment ils fonctionnent. ils partent de leur côté, ils l'alimentent, ils peuvent m'appeler n'importe quand s'ils ont besoin d'aide pour le monter et tout et tout. Fait que c'est vraiment un checklist pour eux aussi qui leur ça leur donne des bonnes pistes de réflexion pour savoir, hey, j'avais oublié de me mettre des frais d'administration, des frais de gestion, ma taxe frontière, de mon projet pendant une construction de 2 ans, il faut que je la paye, je peux-tu la mettre dans mon budget? Ah, lui, il l'inclut, fait que je peux la mettre. C'est tout des petits frais de même que des fois, on oublie. Bien budgéter la contingence, bien budgeter tous ces postes-là, fait que c'est vraiment, au jour 1, je passe le budget avec eux, puis on s'assure qu'il y a tout dedans.
Yes, puis tu sais, aussi, un aspect que je trouvais intéressant, là, c'est pour les promoteurs, les investisseurs, tout ça. T'es un gars qu'on peut aller voir, mettons, je regarde un terrain, là j'ai une idée à peu près de ce que je peux faire dessus, tel nombre de logements, ça, je m'arrête sur une espèce de volumétrie, tout ça. Puis après ça, là, dans mon analyse, là, une des premières choses qui vient, là, c'est ça va être quoi le coût? Là? Donc, tu sais, t'es un intervenant qu'on peut aller voir pour tout de suite demander une idée peut-être des coûts, puis de rentrer dans le dossier et de dire, regarde, j'ai ce terrain-là, tu penses que tel projet, grosso modo, ça pourrait coûter combien? Peux-tu me faire une genre de pré-analyse pour que moi, je puisse négocier le prix de mon terrain? Là. Fait que tu sais, t'arrives vraiment à tôt dans le processus à ce niveau-là.
Oui, ça, je l'ai fait avec toi, j'ai fait avec d'autres clients aussi. Là. C'est sûr que dans mon ancienne vie, j'avais une plus belle base de données, elle était complète, puis on avait beaucoup, beaucoup de projets. Là, je recommence à zéro, mais j'ai déjà plusieurs, j'ai déjà 16 dossiers quand même.
Ça doit s'expirer assez vite. De toute façon, une base de données, ça prend des coûts qui sont à jour.
Ouais, on l'indexe, OK, on l'indexait, c'est sûr, okay. Mais l'indexation d'un projet à l'autre, c'est différent. C'est pas parfait. Fait que oui, effectivement, ça évolue très vite. Les coûts ont augmenté rapidement. Ils ont descendu rapidement. Les intérêts ont monté.
Surtout dans les 2-3 dernières années, il y a tellement eu de changements à ce niveau-là. Là, la main-d'œuvre, le bois, etc., tous les matériaux, ça, on dirait que ça bouge à tous les 2 mois. Là, donc, c'est important d'être vraiment actuel dans le marché et avoir des coûts à jour, j'imagine. Là.
Exact. Fait que moi, je me permets de fournir aux promoteurs une petite liste là, avec, c'est comme 5 points, là, c'est pas détaillé. Mais voici, grosso modo, ça te coûterait, je sais pas, 220$ du pied construire ton projet en bois brique. Et toi, ça te permet de te positionner de ton côté. Je sais que je veux mettre 5 000, 6 000 pieds carrés, comme tu disais tantôt. Fait que tu as ton budget, tu connais la valeur économique de ton projet, fait que tu es capable de savoir combien tu dois payer ton terrain pour qu'il soit rentable et tout et tout. Oui,
puis d'avoir des gens directement au début de projet, avant même de faire ton offre d'achat, c'est donc bien rassurant aussi. Mm. Tu sais, combien de fois qu'on représente, tout le monde le sait, je suis courtier immobilier, combien de fois qu'on représente des clients ou ce qu'eux autres, ils ont leur pro forma. Puis tu sais, selon les différents intervenants, chacun va avoir son pro forma puis il va mettre en place sa grille de calcul puis sa rentabilité qu'il veut avoir. Puis il y a des gens qui sont prêts à laisser de l'argent sur la table pour différentes raisons, la localisation, le nombre de logements, la qualité de l'immeuble, etc., etc. Puis il y en a d'autres que c'est un des no-brainer qu'ils n'achèteront pas si ça ne rentre pas dans leur pro forma à eux. Puis, tu sais, d'avoir une personne avec laquelle, qui connaît un peu c'est quoi notre ligne directrice, vers où qu'on va s'en aller. Tu ne dois pas faire juste du neuf non plus. Tu dois faire aussi des projets d'optimisation, de rénovation.
Oui, j'en ai pas beaucoup, je t'avouerais. Souvent, les rénovations, c'est l'équité d'une autre phase. Fait que c'est des moins gros financements. Ils sont capables de s'autofinancer ou se financer directement avec un architecte. Des fois, c'est l'architecte qui fait des autorisations, des choses comme ça. J'ai quelques projets en agrandissement ou en rénovation, mais c'est beaucoup plus rare. Il y a beaucoup de constructions neuves. Leur BHLEC a été super apprécié du marché pour faire énormément de constructions neuves. Fait que c'est vraiment plus, honnêtement, de la construction que je fais. Mais oui, il y a un petit peu de rénovation au travers de tout ça.
Puis, tu sais, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, là, à savoir, tu sais, qu'est-ce que le coût de construction exactement, etc., les tenants aboutissants de ça, petite question rapide comme ça pour toi, comment tu vois là, la prochaine année 2024 là, en matière de construction? Tu sais, on sait que ça a été peut-être un petit peu ralenti avec, il y a eu les coûts de construction qui ont monté, après ça, il y a les taux qui ont monté, tout ça. Là, on voit que les gouvernements, tendent à mettre des mesures pour stimuler la construction un petit peu. Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on va assister à une recrudescence un peu des constructions en 2024-2025?
Tous ceux à qui je parle présentement, là, c'est les demandes d'attestation à la SCHL, ils ont repris là, énormément d'allure. Ça, oui, le taux a baissé récemment, là, le CMB 5 ans, on voit qu'il diminue. Ça l'a énormément relancé de chantier, je trouve. Il y a la TPS, bien évidemment, en septembre, qui est venue donner un coup de pouce. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. On aurait espéré que la TVQ suive. Elle n'a pas suivi.
Ça n'arrivera pas selon toi?
De tout ce que j'entends, non. Il y a eu l'annonce du ministère, là, pas du ministère, mais du gouvernement fédéral, du 15 milliards qui parlait là, pour la garantie de taux, baisser les taux là, pour la SCHL. On ne sait pas au Québec encore comment ça va se transmettre. On ne sait pas. On est toujours en retard là, c'est sur ces informations-là. Mais je sens énormément que ça repart. Je suis plus dans des petits projets, si on veut. Là, fait que il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros projets, là, mais je suis plus dans du moins de 24 logements. Fait que les projets d'envergure, c'est encore un peu plus difficile à starter, c'est sûr, ça coûte cher. Mais je sens que ça va restarter là, en 2024. Là, je pense qu'on va être surpris.
Puis ça va être de voir aussi là, les villes là, qui lèvent la main, qui disent vouloir stimuler un petit peu là, dans ce cas-là.
Ça va être quoi leur implication, puis ça va être quoi l'aide qu'ils vont donner, puis ça va être, tu sais, L'implication, justement, c'est beau dire oui, on va être là, oui, on va être là, mais quand aussi, là, tu sais, cette partie-là est quand même vraiment importante. Puis c'est sûr qu'on n'embarque pas dans le prochain segment sur c'est quoi le contrôle de coût parce qu'il faut aller en pause. Ce premier segment est présenté par Plan de match Réno. Plan de match Réno est votre allié pour planifier, budgéter et optimiser vos projets de rénovation et d'immobilier, que ce soit pour la planification, l'exécution, la reconfiguration pour un aménagement optimal. Pour rétablir vos valeurs actuelles et projeter de financement, consultez leur page Facebook de Plan de match Réno. La bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires aussi pour nos prochaines saisons pour 2024. On a aussi notre magazine qui va être en ligne là, début 2024, fait que ça va être quand même malade. Vous voulez plus d'informations, contactez-nous directement sur jeanfrancoismorin.ca, sur mon cellulaire aussi au 418-801-8011 ou sur ton site web.
Yes, www.groupemercini.com, la meilleure façon pour nous rejoindre.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes.
96.9. Pas attendre, amenez votre feuille, trop de stock.
L'immobilière au 96.9 Alternative Radio.
On est de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de Gestion Faleschini Mercier. Pour vos besoins en gestion et en location immobilière, contactez-les directement. C'est simple, c'est sur leur site web, groupemercini.com. Nous sommes tous les deux membres, Mike puis moi, à titre d'administrateur du réseau immobilier. Puis le réseau immobilier, c'est quoi? Ben, c'est des déjeuners-conférences, c'est des 5 à 7, c'est des visites de chantier, des visites d'usine, des 5 à 7. Il y a le colloque annuel qui en 2024 va être Luc Poirier, qui est quand même pas rien non plus. Puis, vous voulez avoir plus d'informations sur le réseau, n'hésitez pas. C'est réseauimmobilier.org. Aujourd'hui, on est avec Louis-Philippe Villeneuve, économiste en coûts de construction agréé. C'est un sujet ultra intéressant. Puis, on en a parlé, on a mis la table sur c'est quoi les coûts de construction, puis c'est qu'est-ce que tu fais, puis à quel moment, puis de quelle façon qu'on le fait. J'aimerais ça, Louis-Philippe, que tu puisses nous dire un peu plus, c'est quoi la nomenclature de où qu'on part, vers où qu'on s'en va, puis ça va être quoi étape par étape, le step by step de comment ça fonctionne travailler avec toi.
Parfait. Écoute, ça c'est simple, c'est quand tu fais un financement avec un prêteur principalement conventionnel, mais des fois avec des prêteurs privés, là, mais c'est principalement avec des prêteurs conventionnels, on pense à Desjardins, BLC, BMO, BNC, peu importe, on les connaît tous. Là, ils vont exiger un consultant à coût. Fait que là, nous, on intervient au dossier, c'est vraiment en fonction de quand le client nous demande. Mais j'aime toujours être le plus tôt possible, comme je disais tantôt, pour être capable de l'accompagner vraiment de A à Z, monter son budget avec, aller voir tout de suite les conditions préalables. Fait qu'on fait tout, notre mandat est en deux étapes. La première étape, c'est le rapport de présentation, rapport initial, rapport préliminaire, appelons-le comme on veut. Dans ce rapport-là, il n'y a pas de chiffre, si on veut, à part la validation budgétaire. Le reste, c'est toute la vérification préalable. Fait qu'on valide que le zonage est respecté. On valide que le permis est conforme, on valide que l'échéancier est conforme, on valide que le promoteur a ses assurances chantier, ses assurances responsabilité civile, que le prêteur est bénéficiaire de premier rang, ça c'est bien important. Après ça, on valide les plans et devis du projet. On valide, j'y passe là, de mémoire, on valide des études géotechniques, environnementales. Si l'étude environnementale, il y a un risque de contamination, mais on va tout aller chercher les phases subséquentes. Fait que la phase 2, la phase de décontamination, on en a tout besoin. Rapport d'évaluation. Une fois qu'on a fait le rérive de tous ces documents-là, on fait une analyse budgétaire. L'analyse budgétaire est déconstruite en deux sections. Si on veut, la première section, c'est ça dépend du type de contrat avec l'entrepreneur en général. Si c'est un contrat à forfait, c'est un petit peu plus simple pour nous, si on veut, parce que déjà, il y a un gros montant du prêt qui est garanti par le contrat d'entrepreneur en général. Tandis que si c'est un cost plus, un contrat de gestion, un clé en main, là, ça nous prend beaucoup plus d'étapes de vérification. On a besoin de recevoir tous les contrats des sous-traitants ben, à hauteur du pourcentage exigé par la banque, qui est souvent entre 60 et 70 %. Si on veut, la SCHL, eux, ne se sont pas conseillé le basic, c'est le 2/3, fait que 67 %. C'est ce que ça nous prend, nous, comme vérif préalable pour valider le budget. Fait que tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas le premier dollar de débourser. Fait que c'est bon de le savoir très tôt dans le processus. Puis après ça, on fait une vérification budgétaire. Là, on valide les coûts directs, les frais de promotion administration, on valide la contingence, on valide tous les coûts indirects qui incluent les professionnels, la taxe foncière, l'administration, le profit, les frais de promotion, si on veut. On valide aussi les intérêts, la réserve... la réserve d'intérêt, on valide les frais de financement, le terrain, l'autocotisation, puis les frais SHL. Fait que c'est vraiment une grosse vérification budgétaire là, qu'on valide tout l'ensemble des coûts inhérents au projet.
Puis est-ce que ça se peut que, tu sais, puis on va en parler un peu plus précisément, mais est-ce que ça se peut que ça, ça soit échappé, mais solidement par les entrepreneurs? Parce que, tu sais, la réalité, c'est que tu as une soumission d'un plombier pour ton complexe, mais tu te réfères à qui? Tu sais, c'est ton contact, c'est le sous-traitant de l'entrepreneur. Y es-tu vraiment dans ses prix? Les prix sont-tu hijackés? Tu sais, y a-tu deux factures? Tu sais, on ne sait jamais, mais ouais. Ça doit être vraiment échappé, ça.
J'ai la misère à te répondre oui ou non, mais... T'sais, souvent, dans le fond, les promoteurs font affaire avec plusieurs soumissionnaires aussi. C'est pas juste un plombier qui est, à moins que ça soit son chum. T'sais, quand tu achètes un contrat forfaitaire, tu connais la valeur économique de ton projet, tu sais ce que tu es capable de payer pour la construction. Fait que si un dans l'autre, ça fit, ça dépend de ton risque de promoteur. Est-ce que toi, après ça, tu vas aller voir trois entrepreneurs généraux? Est-ce que tu fais confiance à lui parce que ça fait 20 ans que tu travailles avec? Il n'y a pas de formule magique, il y a plusieurs aspects différents. Mais oui, ça peut devenir un casse-tête là, souvent savoir quelle est la bonne soumission. Des fois, il y en a une qui est plus basse, mais elle inclut pas toutes. Fait que là, tu pensais que ton chauffage de ton stationnement souterrain était inclus, mais il n'était pas. Fait que là, tu as une surprise de 100 000 à la fin du chantier. Fait que, tu sais, c'est ça, ça faut.
Puis des projets de plusieurs millions puis plusieurs centaines de milliers de dollars, là, t'sais, une surprise de 100 000, ça arrive régulièrement. Là, t'sais, pour des choses que des gens qui ont oublié, qui n'ont pas pris en considération, t'sais, on en parlait d'emblée, la prime SCHL, la taxe sur la prime, t'sais, de quelle façon, à quel moment qu'on le rentre dans le budget, à quel moment qu'on le sort de la mise de fonds, etc. Fait que t'sais, des fois, on peut avoir un projet de 3 millions où ce qu'on pensait mettre 600 000 de mise de fonds, puis finalement, c'est 800. Là, ça peut avoir des impacts majeurs sur... la rentabilité du projet, puis la pérennité du projet aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est ce que tu viens faire, tu viens éviter du début jusqu'à la fin. Là.
Le plus tôt possible, moi, je m'assure que tu respectes ton budget, je m'assure qu'on a tout inclus. Fait que s'il y a des surprises au jour 1, on va essayer d'aller optimiser ton budget après ça. Est-ce que tu es capable d'aller renégocier un contrat XY? Souvent, moi, je demande à mes promoteurs de mettre 5% de contingence au jour 1. Mais plus que tu avances dans ton processus de budget, plus que ton budget se définit, moins ce pourcentage-là peut être élevé. Puis avant le premier déboursement, on exige souvent 3% des coûts à compléter en contingence. Fait que ça vient déjà de te donner un bon buffer. Fait que quand tu as des dépassements, des imprévus, ben, elle a cette réserve-là. Fait que c'est souvent des 150, 200, 300 000 qu'on budgète en contingence. Fait que tous ces pépins-là qu'on n'a pas pensé au début, tous ces impondérables-là, ou comme tu disais, quand c'est ton premier chantier versus ton 30e, tu n'as pas les mêmes réflexes en tant que promoteur quand tu fais ton budget. J'ai des promoteurs que c'est des no-brainers. Ils n'ont pas besoin de moi au jour 1. Quand j'arrive à minuit moins une pour débourser, je reçois c'est un courriel, j'ai tout, ça va super bien. C'est vraiment plus pour ceux qui commencent là, que c'est plus compliqué un petit peu de savoir exactement tout ce que tu as besoin d'inclure dans ton budget. C'est là que j'ai vraiment une belle plus-value, si on veut, là, dans un chantier. Là, c'est autant pour un gros promoteur qu'on peut s'aider des fois sur des petits points, là, mais les plus petits, c'est là qu'on peut vraiment là, aller loin avec eux. Là.
C'est ça. Puis tu sais, à quel point que quand le client vient de voir, son budget doit être étoffé et précis, là, parce qu'il y a toutes sortes de promoteurs, des plus gros, des plus petits, il y en a qui sont plus à leur début. Fait que tu sais, c'est ça. Toi, j'imagine que des fois, tu peux recevoir un budget puis le démolir, là, quasiment. Là, je veux
ça
dire,
arrive. Des fois, j'ai pas de budget pour tout. J'ai des promoteurs.
Tu le fais, dans le fond. Tu peux le faire d'une certaine manière. Là.
C'est ça notre rôle. Puis souvent, c'est pas tout le temps des belles conversations. Mm-hmm. Souvent, je me pogne avec les promoteurs. Je me pogne, mais on se chicane. Puis je veux pas, ça fait
partie. C'est important de pas avoir peur de faire ça. quand c'est ça qui est nécessaire, tu sais, je veux dire, si tu fais ça pour ton client au bout de la ligne. Là.
Ça me fait. Puis souvent, après coup, il s'excuse, il me rappelle, hey, merci, tu sais, finalement, t'as telle affaire. Puis je le prends jamais personnel parce que je comprends la game, c'est des vrais dollars. Moi, je viens de dire, hey, tu pensais que c'était 400 ta mise à fond, c'est rendu 800. Le monde capote, là, le monde. Ouais,
puis en même temps, tu sais, on est deux yeux, puis le nez collé sur l'arbre, là. Fait que, tu sais, on n'a pas une idée de la forêt. On est pris émotivement sur nos projets. C'est nos billes qui s'en ont le projet aussi. Ouais. Puis là, tu sais, on fait comme, hey, c'est à cause que je comprends, qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est pas comme ça, faut que ça marche. Fait que, tu sais, fais de la magie, invente-nous quelque chose, mais il faut que ton proforma rentre dans qu'est-ce que moi j'avais comme projet. Puis c'est là, à un moment donné, que toi, tu fais un reality check. Tu fais comme, écoute, c'est un projet qui fait pas de sens.
Effectivement. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va rediscuter avec le prêteur aussi. Puis les prêteurs sont super ouverts. Hein. N'hésitez pas à appeler votre prêteur. Ils comprennent la game, ils comprennent des fois aussi votre réalité. Puis, par exemple, la mise de fonds est avant taxe, est toujours avant taxe. Puis il y en a beaucoup qui oublient de se faire ajouter un crédit variable pour financer les taxes tout le long du chantier. Il y en a qui ne sont pas inscrits aux taxes. Il faut qu'ils supportent les taxes pendant un an, ce qui vient de rajouter 15% de plus de ta mise de fonds que tu ne t'attendais pas. Ça peut être un enjeu vraiment majeur. Fait que souvent, ton promoteur, bon, ben, tu as une réserve d'autocotisation à la fin de ton budget. Fait que des fois, il va dire, regarde, on va t'autoriser 50%, 60%, 70% de ta réserve d'autocotisation pour supporter tes taxes tout le long du chantier. Fait que ça vient alléger un petit peu ton fardeau. Fait que tu sais, il y a plein de techniques pour. Pas de technique, mais de stratégie, toujours en parlant avec le prêteur, pour essayer d'alléger, toi, ta mise de fonds supplémentaire en tant que promoteur, qui peut des fois être un enjeu majeur.
Puis, Louflet, tu as parlé de l'autocotisation un petit peu. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail, ça consiste en quoi, ça, cette fameuse autocotisation-là?
Parce que tu sais, écoute, je dois te le dire, là, je vais avoir les deux pieds dedans, mais j'ai aucune idée comment ça marche sur les projets de construction neuve. Fait que, tu sais, j'aimerais vraiment ça que tu puisses l'expliquer pour les nuls, là, parce que je veux vraiment être attentif sur ce segment-là.
Ça, on pourrait en parler pendant des heures. L'autocotisation, c'est une bête noire dans le marché immobilier, dans la construction neuve. C'est vraiment, là, c'est méconnu, c'est mal compris de tout le monde. Nous, notre façon de faire qui a toujours fonctionné, puis ça, écoute, c'est sûr que les promoteurs sauvent énormément d'argent en fonctionnant comme ça. C'est comment qu'elle fonctionne? Il y a plusieurs types de marchés. À vrai dire, il y a un marché primaire puis un marché secondaire quand tu fais de l'évaluation marchande. Puis où nous, on se positionnait, c'est toujours dans le marché primaire, étant donné que tu ne sais pas encore ton immeuble, comment qu'elle va réagir sur le marché. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut réellement. T'sais, l'évaluateur fait toute la job qu'il est capable de faire, mais au final, tant qu'elle n'aura pas été déposée sur le marché, tant qu'elle n'aura pas été soumise à de la location, tant que tu ne sauras pas c'est quoi tes vraies dépenses, tes vraies taxes municipales, tes vraies assurances, tes vrais frais de gestion, peu importe, tant que ça, elle n'aura pas eu un 2, 3, 4, 5 ans sur le marché, tu ne sauras pas exactement qu'est-ce qu'elle vaut. Fait que nous, on y va tout le temps sur le marché primaire. Ça, c'est une chose. Après ça, le ministère n'a jamais été capable, ben, en tout cas, selon nous, de démontrer que c'était la méthode du revenu qui prédominait pour la valeur à utiliser pour l'autocotisation. Nous, on a toujours été au coût déprécié. Fait que le coût déprécié selon nous, le coût le plus juste parce que c'est le coût le plus neutre. Le but de l'autocotisation, c'est d'autocotiser tous les promoteurs de la province sur la même base. En y allant avec une méthode du revenu, tu ne peux pas faire ça sur la même base pour tout le monde. Il y a des impondérables dans chaque ville, chaque secteur a Mettons, tu vas en région, tu vas avoir une moins belle valeur que si tu étais à Montréal, des choses comme ça, mais pourquoi est-ce qu'un promoteur qui construit une place versus une autre devrait être pénalisé? C'est pour ça qu'en y allant sur le coût, c'est la même chose pour tout le monde. Tu peux pas avoir deux opinions différentes sur un coût de construction, c'est les coûts réels. Fait que nous, on y va déprécier. Tout ce qu'on déprécie du coût de construction, c'est ce qui apporte pas de plus-value à ton projet. Fait que si, par exemple, tu...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Achète un terrain, tu ne savais pas qu'il était contaminé. Tu fais une étude environnementale, ils font du pitage, parfait, tout est beau. Tu arrives pour la construction, oh, finalement, il y avait une vieille source qu'on ne connaissait pas de contaminants XY, ça te coûte 150 000 faire décontaminer ton terrain. Bien, ce n'était pas un coût de projet qui apporte une plus-valeur. Si tu as déjà payé ton terrain à la juste valeur marchande, ce coût-là, nous, on le déduirait de ton autocotisation. Fait que c'est vraiment de dégraisser au maximum ton coût réel de projet pour l'amener à la JVM, à la même base sur tout le monde, puis théoriquement, on ne peut pas se chicaner. C'est les vrais chiffres, dans le fond.
Et est-ce que ça fait l'objet d'un débat actuellement au ministère ou c'est plutôt sa part?
Si tu appelles, jamais ils vont t'autoriser d'y aller avec les coûts directs. Mais la jurisprudence, la seule qu'il y a présentement sur le marché, c'est ce qu'elle dit, c'est le jugement, c'est d'y aller au coût. C'est le coût déprécié. Fait que, c'est ça. C'est...
Parfait. Fait qu'une fois que tu as statué sur la valeur marchande ou en tout cas la valeur à utiliser pour les fins de l'autocotisation. En tant que tel, l'autocotisation, c'est quoi? C'est de dire c'est une vente présumée, donc le gouvernement doit percevoir les taxes. Comment ça fonctionne à ce niveau-là, un petit peu la mécanique?
C'est que dans le fond, étant donné que c'est pas comme un condo qu'il y a un particulier qui achète puis qui paye l'autocotisation, la taxe, comme quand tu te bâtis une maison ou quoi que ce soit, c'est le promoteur qui, lui, paye à la fin du chantier. La règle de l'autocotisation, c'est deux règles importantes dans la même. C'est 90% d'avancement des travaux et le premier locataire. Fait que si ton premier locataire arrive au 1er juillet puis que ton 90% était, en mai ou en juin, ben, ton autocotisation est payable au 31 août au plus tard. Ça, c'est quand tu es inscrit mensuellement, comme la grande majorité du monde là, sont inscrits. Si tu es trimestriel,
au taxe, va... ouais, taxe, il faut s'inscrire aux taxes.
Inscrivez-vous aux taxes quand vous construisez. Écoutez, vous allez récupérer vos taxes tout le long de la construction. Fait que c'est du net dans vos poches versus si vous la supportez tout le long, c'est votre cash flow qui va décoper. Si vous avez un petit dépassement de coût, puis en plus, vous avez supporté vos taxes, c'est là que des fois, vous devenez un petit peu...
Ça vient faire casser un peu.
Oui, ça peut venir vous serrer. Tandis que si au moins ce 15%-là il est déjà dans vos poches, ben, si vous avez un petit 3-4% de dépassement de coût, ben, vous êtes liquide, vous êtes capable...
Avec l'intrant-extrant, tu sais, on vient d'en récupérer une bonne partie, puis ça fait en sorte que ça devient quand même plus intéressant aussi. Là. Puis, question, peut-être qu'il n'y a pas rapport, puis peut-être que je suis à côté de la traque complètement, mais est-ce qu'on pourrait challenger des rapports d'autocotisation qui ont été faits, mais antérieurs? Tu sais, par exemple, je me rends compte que mon projet que j'ai fait en 2019, ben, j'aurais peut-être pu autocotiser différemment. On peut-tu re-challenger le projet ou... C'est scellé, c'est booké, c'est payé, puis that's it.
Je sais pas, honnêtement. Je sais que les ministères ont jusqu'à 5 ans pour revenir en arrière.
Est-ce que nous, on peut le faire? C'est toujours un autre défi.
Je sais qu'il y en a qu'on conseillait souvent, mettons, qui sont minuit moyen, il faut qu'ils payent l'autocotisation. On est le 24 décembre, tout est fermé après ça. On leur dit payer, on va sortir votre rapport dans un mois, deux mois, peu importe, puis vous ajusterez. Il y a tout le temps de la bonne foi aussi. C'est sûr que si toi, tu veux te rouvrir 4 ans plus tard, là, je ne sais pas là, à quel point le ministère peut l'autoriser. Là, ça, je
puis,
sais pas.
Puis sur certains projets, on parlait de plus petits projets, moins de 24 projets, etc. Mais des constructeurs qui vont construire du 50, 100, 200, 400 portes par année, s'ils changent leur méthode d'autocotisation, ça peut avoir des différences énormes sur le retour, sur leur cash qu'ils peuvent avoir dans leur poche, puis de quelle façon qu'ils peuvent le faire. Là. Est-ce que tu as... T'sais, un exemple que tu pourrais donner, sans nécessairement être un exemple sur lequel tu travailles, mais t'sais, c'est sûr que ça doit avoir des impacts majeurs. Là.
C'est majeur, majeur, majeur. Écoute, c'est surtout aussi parce qu'il y a des paliers à l'autocotisation. La TPS, t'as la TVQ. La TPS, le palier est rendu à 100%. Le gouvernement, j'ai de mémoire, c'est jusqu'au 31 décembre 2029. Fait que jusqu'en 2030, le fédéral a autorisé 100% des crédits. Pour la TVQ, le palier est excessivement rapidement régressif. De 200 à 225 000, tu perds ton crédit de 36% de TVQ. Ce qui fait que des unités à 225 000 de nos jours, ça n'existe presque pas. Surtout en valeur marchande, si tu vois en valeur marchande de financement, à peu près personne ne va construire, Michael, tu sais, t'en vois passer, il n'y a personne qui construit en bas, il n'y a pas un immeuble neuf qui vaut en bas de 225 000 ou très peu. Ça dépend aussi de ta typologie, ça dépend de ta
on entend plus, on est plus rendu à des chiffres de... On a pété la barre du 300 000, là, je pense, dans plein de projets, là, donc le fameux 225 000, 200 000 la porte, là, pour du bois. C'est quasiment ça dans l'usager, là, j'exagère un petit peu, mais on commence quasiment à avoir des valeurs de ça dans l'usager. J'exagère quand même, mais... Ouais. T'as donné une idée à quel point c'est effectivement ça l'a, les seuils sont vraiment pas actuels.
C'est ce qu'on espérait aussi de l'annonce de la TVQ sans suivre la TPS qui dirait bon ben on l'abolit au complet, au moins augmenter les seuils. Il y en a beaucoup qui prêchaient ça. L'IDU a travaillé fort là-dessus, puis ça n'a pas fonctionné. Ça l'a arrêté parce que la TPS, avant, c'était 350 à 450 000, ce qui fait beaucoup plus de sens. C'est ça, de mémoire, là, c'est fin 1980 que ces seuils-là ont été établis. Ils n'ont jamais été rouverts,
depuis,
jamais été indexés.
Depuis 1980?
88, 89, wow! 90. Dans ces eaux-là, OK? Fait qu'à l'époque, une maison de 450 000 en 1990, c'était une super maison. Aujourd'hui, 450 000, des fois, t'as
c'est l'entrée de gamme quasiment, là.
C'est ça. Fait que, tu sais, ça marche plus. Fait que la TVQ en VM financement, elle disparaît. Quand tu vas au coût, j'ai certains promoteurs, mettons, qui font du 6 logements en bois briques, bon, qui sont capables d'aller en bas du 225 000. Fait qu'eux, ils vont rechercher tous leurs crédits de TVQ. Fait que juste la méthode que tu utilises, que ce soit en valeur marchande pour financement ou en coût de construction déprécié, tu n'as pas le même crédit. Juste ça, à base, ça fait une grosse impact. Fait que 10 % aussi de 300 ou 8 % de 200 000, ben, par unité, c'est fou la différence que tu payes. Fois, comme tu disais tantôt, 100, 200, 300, 400 unités, c'est énormément de bénéfices nets, dans le fond, dans vos poches.
Puis je pense aussi que c'est important de mentionner que c'est important de faire affaire avec un évaluateur agréé pour établir la juste valeur marchande, ben, en tout cas pour faire l'autocotisation. Parce que les clients, des fois, pourraient prendre le même rapport d'évaluation qu'ils ont donné pour le financement, qui va être une valeur beaucoup plus élevée, qui sera pas nécessairement, ça ne tiendra pas compte du coût déprécié, comme tu mentionnais. Mais je pense que c'est vraiment important de faire affaire avec un évaluateur agréé pour déterminer ce genre de rapport-là.
Oui, assurément. Puis encore une fois, GDA là-dedans, son numéro un là, pour les valeurs marchandes. Pour faire une autocotisation, pour toutes les VM, là, mais principalement autocotisation, sont super.
Qu'est-ce que j'aime de la saison 12, c'est que, Michael, t'es extrêmement impliqué dans l'immobilier à tous les divers niveaux. Tu me l'as dit, tu me dis, écoute, j'ai plein de partenaires, j'ai plein de gens avec qui je fais affaire, des gens qui ont du contenu incroyable, qui veulent partager. Puis, écoute, c'est la preuve aujourd'hui, là, Louis-Philippe, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu nous parles? Sauf que d'un autre côté, la bulle immobilière est sponsorisée aussi. On doit passer à les pauses. Mais la bulle immobilière est toujours disponible grâce à CJMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h, juste après le jargon de Guillaume Fortin, mais juste avant, Zone parallèle. Restez avec nous. On tient à remercier Air Fortin, commanditaire de notre show. Merci Air Fortin d'être là depuis déjà quelques saisons. Merci.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes.
CJMD 96.9.
CJMD 96.9.
De retour à la bulle immobilière.
De retour à la bulle immobilière.
Vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer à la bulle immobilière ou encore mieux, vous désirez venir partager votre expertise puis votre histoire avec nous, contactez-nous directement par courriel à info@jeanfrancoismorin.ca. Toujours avec Michael Faleschini et Jean-François Morin, on reçoit chaque semaine des spécialistes en immobilier qui viennent jaser de divers sujets qui touchent le monde de l'immobilier. Puis cette semaine, on reçoit Louis-Philippe Villeneuve, économiste en coût de construction agréé. C'est vraiment un sujet dollars, c'est un sujet qui est ultra intéressant. C'est vraiment pas évident comme domaine parce qu'on peut se mêler quand même assez rapidement. Puis tu sais, pour revenir un peu là-dessus, c'est qu'on entend souvent les soft costs, les hard costs. On vient parler aussi des coûts directs, les coûts indirects. J'aimerais ça, Louis-Philippe, que tu viennes pouvoir un peu démystifier c'est quoi en réel là, tous ces coûts-là, puis de quelle façon qu'on peut mieux les catégoriser.
Absolument. Je vais te faire ça de mémoire, mais dans le fond, tu as 16 divisions là, dans les coûts directs. La première, c'est les frais généraux. Fait que dans les frais généraux, tu as tout ce qui ne restera pas sur le chantier. Fait que tu as assurance, permis, tu as contremaître, surintendant, la grue, tous les temporaires de chantier, électricité, toilette, téléphone, le millage, n'importe quoi, la roulotte. Tu vas avoir le ménage fin de chantier, le ménage pendant le chantier. Fait que vraiment, tout ce qui va sortir du chantier à la fin ou en tout cas mobilisation, démobilisation, peu importe. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est excavation. Fait que tu vas avoir excavation, tu vas avoir débasement, tu vas avoir démolition. Alors ça, la division 3, c'est béton, coffrage, armature. Fait que béton, coffrage, armature, tu vas avoir finition du béton, les trous aussi quand c'est une construction en béton là, pour passer ta mécanique et tout, là, ton forage. Après ça, des fois les balcons de béton aussi, ça dépend de quel type de balcon que tu as. La division 4, c'est maçonnerie, fait que ce soit des blocs pour les murs coupe-feu, les murs dans les salles mécaniques, que ce soit la maçonnerie extérieure. La division 5, c'est tout ce qui est acier d'armature, les aciers aussi pour les ferrangues pour les fenêtres, les ferrangues pour les balcons, les colonnes d'acier. La division 6, c'est tout ce qui est charpenterie, fait que la structure de bois quand c'est une construction en bois, la menuiserie, tu vas voir l'ébénisterie, les finitions là, pour tout ce qui est moulure, plinthe, les choses comme ça. Division 7, tu vas avoir isolation extérieure, isolation de dalle, la finition extérieure pour quand c'est du revêtement souple et non de la maçonnerie qui est dans le poste 4. Tu vas avoir aussi isolation de la toiture. La division 8, c'est tout ce qui est ouverture, fait que porte intérieure avec la quincaillerie. Tu vas avoir la porte de garage pour les immeubles qui ont un stationnement souterrain. La division 9, c'est tout ce qui est finition intérieure. Fait que tu as gyps, la céramique, tu vas avoir la peinture, tous les colombages et tout et tout. Ça ressemble pas mal à ça. La division 10, 11, 12, 13, c'est beaucoup tout ce qui est les éléments spéciaux. Fait que les piscines, si tu as un sauna, un spa, t'as-tu des casiers, soit pour mettre des vélos, des choses comme ça, ou tes casiers postaux. Fait que ça va être vraiment un petit peu... sont un petit peu différentes d'un promoteur à l'autre, si on veut. Là. Fait qu'ils sont un petit peu plus durs à définir, mais c'est vraiment plus ce qui est tout autre poste connexe. La division 14, c'est ascenseur, monte-charge. Division 15, c'est plomberie, ventilation, protection incendie. Et la division 16, t'as l'électricité. Électricité et luminaire. Ensuite, t'as les frais de l'entrepreneur, fait qu'administration et profit.
Je devais juste dire que pour un gars qui a la mémoire, là, il est quand même solide. Là.
Ben, Je pense que je les ai toutes passées, mais ça se peut qu'il en manque. Désolé, ça se peut qu'il en manque certains. Ensuite, bien important, tu as ta contingence. Fait que la contingence, nous, on vient souvent la rapper sur les coûts directs. Puis comme je disais tantôt, c'est 3 % des coûts directs qu'on essaye d'avoir toujours, toujours, tout au long du chantier. Une contingence régressive, donc tout le temps 3 % des coûts directs à compléter. Fait que si tu as un budget d'un million, puis qu'après ça, tu es rendu à 500 000 d'avancement de travaux, il t'en reste donc 500 000 à faire, ta contingence peut diminuer de moitié. Là. Ça, c'est important à savoir. Là. C'est pas nécessairement tout le temps garder une grosse enveloppe. Plus que le chantier avance, moins que tu as de risques, fait que plus qu'on peut la diminuer. Après ça, tous les soft costs, les frais indirects, tu vas avoir les frais de professionnel, tu vas avoir la taxe foncière, tu vas avoir les frais de promotion du promoteur, les frais de mise en marché, notaire, et tout vraiment ce qui est plus à la charge du promoteur, si on veut. Ensuite, tu vas avoir les frais de banque, fait que les frais d'ouverture de dossier, tes frais d'intérêt. Si tu as un partenaire dans le projet qui est que tu es capable de mettre ses honoraires à lui, un prémèze pour ta mise à fond, des choses comme ça, on va les mettre son frais d'ouverture à lui, ses intérêts à lui. Tu vas voir ton terrain. Le terrain, des fois, tu as le coût d'acquisition, mais tu as aussi la plus-value du terrain. Souvent, les promoteurs jouent beaucoup là-dessus. Tu vas voir ton droit de mutation. Si c'est un gros développement, tu peux avoir des frais de parc aussi. Après ça, ce qui vient rapper tous tes coûts en haut, c'est ton autocotisation. L'autocotisation, des fois, il y en a qui apprennent juste ses coûts directs. Non, c'est vraiment sur tous les coûts qu'on vient d'énumérer. Puis après l'autocotisation, tu vas avoir les frais pour les dossiers depuis 2 ans. Là, tous les dossiers APHLEC, là, tu vas avoir les frais, les droits de demande, la prime SHL et la taxe, comme tu disais tantôt, de 9 % sur la prime.
Puis, je reviens un petit peu sur les coûts directs. Une question que je me pose dans le profit administration, exemple. Oui. Est-ce qu'il y a un guideline, un barème là, de temps à temps avec les promoteurs?
À dire. Ça va dépendre de ta grosseur de projet. Fait que c'est sûr que pour un projet de 500 unités ou pour un projet de 5 unités, tu ne pourras pas mettre le même pourcentage. Un promoteur qui fait un 500 unités qui met 10 %, ça, c'est vraiment énorme. Versus un promoteur qui fait un 5 unités, ben, pour se payer, il n'y a pas le choix d'en mettre un peu plus. Mm-hmm. Fait que ça va dépendre de ta grosseur de projet, mais souvent, nous, on voit, mettons, là, du 24 à 100 logements, je ne sais pas, là, on voit du 3 à 5 % là, de frais de...
Puis on parle pas des honoraires de développement développeur. Ça, c'est complètement autre chose. Ça rentrerait plus dans les coûts indirects.
Toujours indirects, oui. Puis ça, les frais de promotion aussi, ça doit être, je te dirais, 3 à 5 %. Là, on va y aller tout le temps hypothétique parce que tu as une valeur économique de ton projet. Fait qu'à un moment donné, tu as beau mettre autant de frais que tu veux, autant de coûts que tu veux. Des fois, ça peut juste être la mise de fonds supplémentaire. Fait que tu as bien beau dire, moi, je vais mettre 10 % de frais de promotion, mais si ta valeur économique était juste capable d'en supporter 3, ben, c'est de la mise de fonds
supplémentaire. Les frais de promotion, c'est pas l'administration profit. Là, on parle du.
Frais de promoteur. Qu'est-ce que toi, comme promoteur, tu juges que ça vaut le projet que tu as amené? Comment qu'un partenaire serait prêt à te payer aussi pour acheter des parts dans ton projet?
C'est-tu ce qui serait égal à ce que je parle dans les honoraires de développement, si on veut?
Promotion, développement, pour moi, c'est la même chose. Excuse-moi.
OK, c'est beau. Ouais. Et puis,
administration, pour les coûts indirects, ça serait plus si toi, tu as quelqu'un à l'interne chez vous qui fait de la saisie, des suivis de chantier, des choses comme ça. Okay. Ça serait tes administrations, frais d'administration du promoteur.
Parfait, super. Mm. Une autre question que je me posais, là, en fait, juste pour revenir une dernière fois sur les coûts directs, là, quand tu parlais de gyps, mettons, les composantes, etc., on parle toujours de matériaux, main-d'œuvre de ces composantes.
Absolument.
En fait.
Okay, toujours.
Super. Parfait. Bon, mais c'est intéressant.
C'est quand même super intéressant. Puis les frais de courtier arrivent où là-dedans?
Les frais de courtier, ça dépend. Souvent, ils ne sont pas inclus dans le budget. Moi, c'est comme ça que j'y vois. Là. C'est des frais à part. S'il y a de la place, c'est
plus. S'il y a de la place, on les rentre dedans. Mais tu sais, généralement, ça va être externe. Puis on ne peut pas les rentrer dans les frais de promotion, marketing, etc.
Tu pourrais, si tu as de la place. Encore une fois, je vais revenir sur ma valeur économique. Si ton projet était bien, bien short, puis là, tu arrives avec une facture de 60, 70, 80 000 de frais de courtage, ben, puis 40 pas. Je peux la mettre, mais ça va être de la mise de fonds.
Ah, c'est ça. Tu sors du cash pour sortir du cash.
Les frais de courtage hypothécaire ou les frais de...
Ben, les deux, tu sais, ça aurait pu être courtier hypothécaire, mais ça aurait pu être courtier immobilier pour la promotion aussi, là.
Ça va être... Pour la promotion, ça va être carrément dans ta mise en marché. Fait que ça va être ton Google, ton Facebook, ton courtier. Si t'achètes des bandes sur un autobus, n'importe quoi, ça peut tout aller dans ta mise en marché. Mais moi, je parlais plus du courtier hypothécaire, ouais, effectivement, là, qui lui, c'est plus nouveau un peu aussi dans les budgets, si on veut, là. Fait que souvent, c'est payé à part, là.
Super. Puis, une autre petite question que je vais te poser, là, vu que tu es là-dedans dans le day-to-day, là, c'est au niveau, qu'est-ce que tu vois le plus au niveau financement? On en parlait là, pendant la pause. Là. Est-ce que la tendance est plus au bridge de construction, plus on fait un take-out, mettons SCHL ou conventionnel, peu importe, ou on y va vraiment avec le programme APHLEC, SCHL, direct en partant sans bridge ou sans financement privé de construction? C'est quoi la tendance?
Écoute, c'est assez simple. Dans le fond, là, remonte à il y a 2 mois parce que là, ça l'a baissé un peu, fait que c'est plus exactement la même réalité. Mais comme tu disais tantôt, ça évolue tellement vite. À toutes les 2-3 mois, le marché change. Mais il y a 2 mois, un bridge conventionnel, tu étais entre 45 et 55 de mise de fonds. Fait que c'était personne. Je voyais personne aller là-dedans. Tout le monde était en PHLEC où tu te positionnais plus à 10-15 de mise de fonds. En date d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui sont allés réouvrir leur prêt auprès de leur PHLEC, auprès de la SCHL, parce qu'ils sont capables de baisser ce 10 à 5 %-là, parce que là, maintenant, avec les nouveaux taux, ils sont capables d'aller rechercher un petit peu de mise de fonds. Là. Fait que c'est vraiment plus du RPH bord en bord que je vois présentement. Là.
Et puis, tu sais, des fois, on entend les enjeux de délai au niveau des déboursés ou avec la SCHL, ces choses-là. Je pense que les délais se sont améliorés là, versus il y a quelques mois. Y a-t-il un enjeu avec le délai que ça peut prendre pour débourser avec la SCHL? Là? Parce que c'est beaucoup d'argent que le promoteur doit affronter là, d'une certaine manière quand il y a des délais à ce niveau-là. Fait que ça peut être un enjeu.
On parlait de 6 mois il n'y a pas si longtemps que ça. On est plus dans du 2, 3 ou 4 mois.
6 mois, c'est pourquoi exactement?
Quand tu déposais ta demande à la SCHL, avant que tu aies ton attestation, ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois.
Okay, fait qu'il y a 2 choses. Il y a la demande pour avoir ton attestation, puis ensuite, il y a les différents déboursés un petit peu. C'est ça.
Les déboursés, ça va relativement bien. Ça va toujours bien. Ça va dépendre aussi de la qualité du consultant que tu vas prendre. Si tu prends quelqu'un...
Si on prend, mettons,
Louis-Philippe
Villeneuve...
Parlons pour moi. Parlons pour moi. Comment ça fonctionne, c'est... De ce temps-ci, j'attends tout le temps les documents de prêt. C'est ce qui est plus long à arriver. Ils sont débordés et tout, mais... Moi, si je commence ma job en amont, mon premier rapport, mon rapport de présentation qu'on parlait tantôt, il peut être prêt. Dès que ton prêteur est prêt, moi, je suis prêt. Je l'ai envoyé un hier. J'ai reçu la lettre à 5h. À 8h, mon rapport était parti parce qu'il me manquait juste ça. Si tu attends d'avoir reçu tous tes documents de financement avant de me faire embarquer, là, ça, parce que mes délais, souvent, c'est 2 à 3 semaines. C'est quand même long. Il y a beaucoup de back and forth avec les promoteurs. Il manque des documents. Il te manque une lettre d'intention. Il te manque
pour le premier document.
Pour le premier est toujours long. Mais une fois que moi, j'ai fini, que j'ai envoyé mon rapport à ton prêteur, compte 3 à 5 jours ouvrables que ton prêteur le regarde. Une fois que lui va l'avoir regardé avec son post-octroi, son équipe d'analyste, il va l'envoyer à la SCHL. La SCHL compte 5 à 10 jours ouvrables de mémoire qui le regarde. Puis elle va le retourner au prêteur, qui va le retourner au notaire, qui va te le débourser. Fait que ça, après ça, grosso modo, mais bout à bout, à peu près entre 10 et 15 jours, fait que souvent 2 à 3 semaines. Des fois, ça peut être un petit peu plus court. Des fois, ça peut être un petit peu plus long aussi. Ça peut être plus long, surtout si ils ont des questions, ton document de consultant en coût, comme je disais tantôt, il est incomplet. J'ai des clients qui ont vécu des histoires d'horreur de 3, 4, 5 rapports.
Back and forth.
Back and forth, que ça ne marche pas. Puis quand tu retournes à SHL, tu ne retombes pas le premier en haut de la pile. Tu retombes bien évidemment tout le temps en dernier, souvent. Là. Fait que c'est vraiment long. Fait que c'est ça. C'est quand même des délais plus longs qu'avec un prêteur conventionnel. Avec un prêteur conventionnel, uniquement avec un bridge conventionnel, tu serais plus à 3 à 5 jours ouvrables. Là, tu viens de t'ajouter peut-être 5 à 10 jours de plus.
Tu sais, moi, j'avais dans ma tête le mythe où ce que pour le 9 maintenant, là, il fallait absolument quasiment aller avec un privé pour accélérer le processus de la construction, etc. Puis pendant que la construction lève, c'est à partir de là que tu montes ton financement conventionnel avec la SCHL parce que dans ma tête, les délais étaient tellement longs puis c'était tellement compliqué que tu étais quasiment mieux de faire le take-out à la fin puis repayer tout ton privé en fin de course. On le voit de moins en moins parce que justement, il doit y avoir moins de construction. Ils disent à télé, ils disent partout, il y a moins de construction, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Fait qu'ils doivent avoir un petit peu plus de temps pour faire de la gestion de dossier.
Puis, je pense que ça l'a changé aussi avec l'arrivée du programme en PHLEC, là, la dynamique que tu viens de parler. Je pense que depuis que mars 2021, je pense que ça a commencé en PH. Ouais. Depuis ce temps-là, je pense que c'est là qu'on a commencé, corrige-moi si je me trompe, à avoir des financements SCHL dès le départ, là, sans bridge, là, ça, puis la montée des taux. Là, c'est depuis ce temps-là qu'on commence à voir ça un petit peu.
Oui, effectivement. Il n'y a pas de bonne façon de faire, ça dépend tout le temps de tout le monde, mais si toi tu te prends un petit peu d'avance dans ton chantier, je suis convaincu que tu es capable de passer avec le PHLEC et ça allait bien. Ça dépend après ça, c'est quoi toi ta. Il y en a qui sont pas capables d'attendre, c'est bien correct, fait qu'eux vont y aller avec un privé, ça va être beaucoup plus simple. Si tu es capable de prendre le temps, si tu as un petit peu de liquidité, que tu es capable d'avancer un petit peu ton projet par toi-même, probablement que l'APH, ça reste une très bonne solution pour toi. Là.
Puis là, qui dit APH Select, là, on dit aussi, bon, là, on parle d'abordabilité, d'efficacité énergétique, puis d'accessibilité. Maintenant, on parle un peu plus d'efficacité énergétique. Là, comment tu vois ça un petit peu? Là, c'est vraiment ce qu'on entend le plus en ce moment. Là, on dit l'abordable, ça n'a pas de bon sens, on n'en fait plus, les nouvelles règles, etc. L'efficacité, c'est un peu là qu'on doit se diriger là, quand on regarde un projet de construction là, pour dans la catégorie APHLEC, évidemment, je parle.
Oui, pas mal tous mes promoteurs sont en efficacité énergétique, soit à 40% en dessous du code, donc vont chercher leurs 100 points. Mais il y en a quelques-uns qui vont encore avec des méthodes hybrides. Ils vont chercher la moitié des points en efficacité, l'autre moitié des points en abordabilité, ça se fait. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup, là, même des 6 logements là, qui me sortent ça en efficacité énergétique.
Puis justement, pour l'efficacité énergétique, est-ce qu'on doit prévoir, par exemple, une hausse de notre coût de construction de 8 à 10%? T'sais? Est-ce que c'est tellement significatif que ça a des impacts majeurs ou pas? C'est sûr que ça doit dépendre d'un paquet de facteurs, un immeuble de béton, un immeuble de bois, quelles sont les composantes, etc.
T'as donné un sweet spot exact de combien de plus, c'est impossible. Ça va dépendre de ton projet, de ta localisation, de ton orientation au soleil. Il y a vraiment énormément de facteurs. C'est pas 8 à 10 % selon moi, ça va être moins que ça. C'est souvent maintenant la nouvelle méthode de construction. Comment le de base maintenant, c'est quasiment 25 % de plus. Fait que t'as pas nécessairement 40 % from scratch à aller chercher. T'as peut-être le 15 % de plus à aller chercher. C'est sûr que lui, il est un petit peu plus coûteux que l'autre 25 % qui est de base. Mais juste avec de la récupération de chaleur pour préchauffer ton eau, des choses comme ça, les promoteurs aller chercher une meilleure thermopompe, des petites affaires comme ça, sont capables d'aller chercher sans investir jusqu'à 10. Ça va peut-être être 10 % de ta mécanique qui va coûter plus cher. Puis ta mécanique a peut-être 10 % 10-15 % mettons, dans ton coût de projet. Ça va peut-être être 2-3 % de plus.
Oui, puis tu sais, la thermopompe que tu avais à 3000, que finalement tu as mis une à 3500, tu vas chercher ta subvention, etc. T'sais. L'impact est mineur, là.
Ben, c'est important aussi d'aller chercher un bon professionnel pour aller chercher tes subventions aussi, parce que c'est un monde méconnu. En tout cas, ça, c'est un autre sujet.
Peut se perdre assez longtemps à chercher ça, les subventions.
Vraiment. Fait que, d'aller chercher un bon professionnel qui va aller te...
C'est quoi les professionnels pour les subventions?
Bon, ben nous, j'ai essayé avec deux ingénieurs là, dans Starter 1, avec David Rancourt et Andrés Salomon, que je salue. On a essayé de starter... Une compagnie qui est en train, là, on a fait plusieurs mandats, là, nous, d'efficacité énergétique. J'ai starté Patana, j'avais peut-être trop de projets en même temps, là, fait que je me concentre plus sur Patana. J'ai eu un petit coco aussi qui est arrivé en même temps que tout ça. Là,
félicitations, c'est cool.
Fait que ça a été beaucoup d'espoir. Mais avec les gars, on essayait vraiment de promouvoir une offre de service vraiment cool d'accompagnement, encore une fois, A à Z avec les promoteurs, pas juste de te sortir un rapport à 40% puis tiens, vas-y, pars à la SHL. Mais tu sais, je connais pas les autres là, nécessairement dans le marché, là, mais c'est important d'aller chercher quelqu'un pour les subventions.
Et puis, pour l'efficacité énergétique aussi, c'est une petite question, je sais pas si tu peux me répondre, mais à quel moment dans le stade du projet tu dois dire, OK, je fais telle chose pour aller chercher mon efficacité énergétique, tu sais, c'est à la conception des plans, c'est ça. Et si tes plans sont prêts, peut-être que sur les retravailler, etc.
Souvent avec le professionnel directement ou ton sous-traitant, tu vas aller chercher, tes plans vont être faits, ton budget va être pris, tu vas aller chercher un sous-traitant en ventilation, bon, tu vas t'asseoir avec, tu vas faire du cost engineering avec lui, puis tu vas dire, voici ce que j'ai, le sous-traitant qui lui fait ça à cœur de jour installé puis promouvoir des thermopompes, laquelle va aller me chercher tel rendement de plus, déjà juste tes sous-traitants, tes professionnels que tu as dans ton chantier peuvent, eux, sans que ça te coûte trop cher, t'aider. Puis une fois que tu as vraiment optimisé, si on veut, avec ta petite gang autour de toi, là, tu peux donner ça à un consultant en optimisation énergétique qui, lui, va aller chercher peut-être les petites dernières technicalités, les petits derniers cues pour aller chercher ton 40%.
OK, super, c'est intéressant.
Puis tu vois, Louis-Philippe, on arrive à la fin de l'émission. Pour vrai, on veut te contacter, on veut avoir plus d'informations, on veut te recevoir pour une deuxième émission, c'est sûr. Il y a tellement de contenu à discuter qu'on veut t'avoir avec nous aussi. Si jamais on veut communiquer avec toi, de quelle façon qu'on peut le faire?
Vous pouvez aller directement sur patona.ca, P-A-T-O-N-A.ca. Sinon, directement sur mon cellulaire, là, 581-999-5312. Avec mes infos personnelles, là, vous êtes capable de me rejoindre. Puis c'est super facile, je réponds très rapidement au téléphone.
Puis je dois avouer que la bulle immobilière est énormément téléchargée, mais ça va être le bout que les gens vont reculer pour reprendre un numéro de téléphone, puis de reprendre un numéro de téléphone. Merci Michael d'avoir été là pour l'émission. Écoute, une 12e saison de feu, ça va être crifement cool comme saison. Je suis vraiment fier de pouvoir partager la douzième saison avec toi. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité d'écouter notre émission. Ça fait quand même 12 saisons. Plus de 6 ans qu'on est impliqué avec la bulle immobilière, fait que c'est quand même très hot. Si jamais vous voulez jouer au bingo, oubliez pas de jouer au bingo avec Chico puis sa gang tous les dimanches à CGMD. Ils font tirer 1500$. C'est quand même très cool à faire avec la famille. Passez un bon samedi tout le monde.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
CGMD. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.